Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, paddock exceptionnel aujourd'hui. Le paddock RMC bascule en mode masterclass puisque Max Verstappen est champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Il égale Alain Prost, Sébastien Vettel, il entre encore un peu plus dans la légende. On va revenir sur sa saison, comment il a réussi à décrocher ce titre. C'était pas gagné, probablement le plus beau titre de sa carrière, en tout cas moi je me mouille un peu mais pour moi c'est le plus beau, et probablement le plus difficile à aller chercher aussi. Donc on va bien décortiquer cette saison 2024. Pour nous accompagner, le team principal du paddock RMC, Jean-Luc Roy est là, il est content Jean-Luc parce que c'est le meilleur qui a gagné. Jean-Luc, il aime le sport, c'est comme ça. Salut mon Jean-Luc.
Bah oui bien sûr, salut mon Nico. Bah c'est le meilleur qui a gagné sur la plus mauvaise voiture, c'est formidable.
Ça c'est vrai que c'est beau. Les ingénieurs pour t'accompagner Jean-Luc, Louis Gerbier et Paul Lafitte, salut les gars.
Salut monsieur.
Salut Nico, salut Jean-Luc.
Salut les gars.
Salut tout le monde.
Bon, on rappelle que Verstappen n'a pas gagné à Las Vegas. Il termine seulement 5e devant Lando Norris. C'est ce qui lui a permis de décrocher le titre. Mais c'est George Russell qui s'est imposé. Hein. Doublé Mercedes à Sin City. On s'y attendait pas vraiment. Je crois qu'eux non plus d'ailleurs. Ils s'y attendaient pas, les copains de chez Mercedes. Ferrari est encore revenu sur McLaren dans la lutte pour le titre constructeur. Et cette fois, après un week-end de mutants au Brésil, Alpine s'est de nouveau sabordé. Ce n'était donc qu'un rêve éphémère, ce petit Grand Prix du Brésil. On a rêvé.
Une petite ondée.
Voilà, une petite ondée, exactement, dans une saison chaotique. Mais voilà. Le paddock RMC, du coup, c'est disponible sur toutes les plateformes. Je te le rappelle à chaque fois. Mais si tu nous découvres, un petit like, comme on dit, tu t'abonnes à la chaîne podcast. Et puis, tu peux nous noter. C'est très important. Comme nous, on va noter la saison de Max Verstappen. On lui met combien, Max? Moi, je lui mets un petit 9,5 quand même, hein.
Ouais,
sur 10.
Sur 20, c'est pas beaucoup.
Sur 10.
Oui. Ouais.
Parce qu'on peut.
Sur 20, allez. On double
ouais,
la
parce
mise.
Qu'on peut pas
on
mettre 10.
Vegas, on double la mise, messieurs.
On peut pas mettre 10 sur 10. C'est jamais parfait. La perfection n'existe pas, même en Formule 1. Mais un petit 9,5. Bah, vous nous faites pareil sur les applications, là. Le paddock RMC, vous nous mettez une petite note.
9,5.
Bah, on prend un petit 9,5.
Ah, oui,
on prend clairement. Les amis, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Las Vegas, 22e manche de la saison.
That is four in a row, Max. Four in a row, congratulations. Max Verstappen, you are a four-time world champion. That is a phenomenal, phenomenal achievement. You can be incredibly proud of yourself as we are. Amazing, well done.
Oh my God, man, what a season. Four times. Thank you. Thank you, guys. Thank you to everyone. I mean, it was a little bit more difficult than last year, but we pulled through. And we gave it all. Thank you so much, guys.
En pleurs, Max Verstappen à la radio pour célébrer son quatrième titre de champion du monde. Toujours de l'humour, hein. Il dit ça a été un tout petit peu plus difficile que l'année dernière, mais on a réussi à le faire. Tu m'étonnes. Avant de partir tout de suite sur ce titre de Verstappen, je vais vous redonner quand même le résultat de cette course, de ce Grand Prix de Las Vegas, avec la victoire de George Russell, sa deuxième de la saison, sa troisième en carrière, 7 secondes 3 d'avance devant son coéquipier Lewis Hamilton, qui partait dixième sur la grille, qui a fait une qualification complètement, il s'est complètement troué en qualif. Enfin, on ne sait pas si ça vient vraiment de lui, de la voiture, de l'équipe, bref, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Hamilton a réussi, après une belle course, à aller attraper la deuxième place. C'est Carlos Sainz sur Ferrari qui complète le podium. Quatrième place pour Charles Leclerc. Max Verstappen, cinquième. C'est suffisant pour être titré, puisqu'il termine devant Lando Norris, qui n'est plus lui-même là depuis le Grand Prix du Brésil. On l'avait bien compris déjà dans le warm-up du Grand Prix de Las Vegas, on vous en parlait. Il était en mode dépressif, Lando, ça s'est un peu confirmé. Et il termine devant son coéquipier Oscar Piastri, 7e, Hülkenberg, 8e, Tsunoda, 9e, Sergio Perez, qui est une nouvelle fois aux fraises, arrive quand même à grappiller un petit point. Mais ça commence vraiment à sentir le faisan pour l'ami Sergio, là, vu son week-end. On va y revenir.
Mexicain.
Ah ouais, là, c'est bon faisan mexicain.
Bip, ça sent le bip.
Esteban Ocon 17e et Pierre Gasly qui a fait une qualif exceptionnel, troisième sur la grille, qui a dû abandonner suite à un problème moteur. Voilà pour les résultats de la course au championnat. Je vais vous le donner, même si le championnat pilote, du coup, il n'y a plus trop d'enjeux. Hein. Verstappen est du coup champion du monde. Lando Norris, deuxième, 340 points. Charles Leclerc est toujours là, quand même, pour potentiellement aller shipper la place honorifique de vice-champion du monde. Hein. Il a 21 points, Charles Leclerc, de Lando Norris. Oscar Piastri est quatrième. Et puis au classement des constructeurs, Jean-Luc, 24 points de retard seulement pour Ferrari sur McLaren. Donc la lutte va être féroce jusqu'au bout pour ce titre des constructeurs. Jean-Luc, bon, sans plus attendre, la saison de Verstappen, incroyable. On le disait dans le sommaire, le meilleur à gagner. Le meilleur à gagner, Jean-Luc, sur la plus mauvaise voiture, en tout cas parmi les prétendants au titre. Déjà, dans l'histoire de la F1, c'est pas souvent que ça arrive. Quand même. Je sais même pas quand c'est arrivé pour la dernière fois. Et puis il rejoint quand même Alain Prost, Sébastien Vettel. Enfin voilà, ça devient vraiment un monstre de ce sport, hein, Verstappen, avec ce titre.
Bah écoute, c'est incroyable. Alors effectivement, on a tous regardé les stats. Déjà, c'est le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix. Tu vas me dire, c'est normal, il a débuté à 17 ans, mais il remporte quand même son premier Grand Prix en Espagne en 2016 à 18 ans, 7 mois et 15 jours. Ça commence bien. Et puis ensuite, bah évidemment, il a... Alors, en termes de titres, c'est Vettel qui avait remporté son premier titre plus jeune que lui. Mais là, il n'a que 27 ans à peine. Hein. C'était en fin septembre. Il a déjà 4 titres de champion du monde consécutifs. Alors ça, c'est encore un élément qu'il faut prendre en considération. Donc qui le met, bah, il faut remonter à ils sont très rares. Il y a Fangio, il y a Schumacher, il y a Hamilton, mais ils sont pas très nombreux. Vettel, bien sûr, on vient de le citer, ils sont pas très nombreux à avoir aligné 4 titres. Alors juste des stats, je vais pas vous asséner plein de chiffres, j'en ai plein, mais ce qui est important, c'est le ratio, à mon avis, nombre de victoires, nombre de pôles, allez, meilleur tour en course par rapport au nombre de grands prix, parce qu'on dit toujours normal, maintenant il y a 24 grands prix. Bon. Verstappen, écoutez bien, 210 Grands Prix, 4 titres donc, 62 victoires. Alors ces 62 victoires correspondent à 29,95% des Grands Prix qu'il a disputés. Ça veut dire que pratiquement 30% des départs qu'il a pris, il a remporté la course. En matière de pôle, il en a signé 40, donc ça fait 19,32. Et en matière de meilleur tour en course, 33, c'est peut-être là qu'il est le plus faible, évidemment, ça fait 15,94. Alors si on compare, évidemment, la comparaison évidente, c'est avec Alain Prost, hein, pour commencer, j'ai ceux de Vettel aussi. Ben, Prost, lui, il a participé à 202 Grands Prix. Hein, c'est similaire, on était à 210, 4 titres, évidemment. 51 victoires, je rappelle, 62 pour Verstappen, donc vous avez compris qu'en termes de pourcentage, bah, il est un peu moins bien. Il est à 25,6%. En termes de pôles, ce n'était pas son point fort non plus. 33 pôles, 16,5%. Je rappelle que Verstappen est à 40 pour 19,32. Et en meilleur tour en course, alors là, il est mieux parce que c'était le point fort d'Alain en course. Hein. 41 meilleurs tours, ça fait 20,6%. Alors que, je rappelle, Verstappen était à 15,9. Bon, on va arrêter avec les chiffres. Hein. J'ai ceux de Vettel, évidemment, mais quelque part, après, ça devient assommant. Non, pour moi, c'est son plus beau titre. Tu le disais, Nico, en ouverture. Parce que, encore une fois, il a dû se battre. Alors, il est parti à un niveau très élevé. Eh bien, il suffit de regarder la feuille de résultats pour comprendre. Mais je pense que son talent, et j'y reviens, a masqué pour moi la faiblesse de la voiture à compter du Grand Prix d'Imola, Italie. Et ça, c'était quand même très tôt dans la saison. Parce que rappelez-vous, il avait déjà Nando juste derrière lui. Nando qui vraiment lui a mis une pression formidable. Il a gagné d'extrême justesse Verstappen. Et sincèrement, à ce moment-là, pour moi, déjà, la McLaren était meilleure et Lando avait les moyens. Alors après, il a quand même réussi à aligner 2 autres victoires magnifiques au Canada. Donc, bon, il y a eu Monaco entre-temps. Au Canada et en Espagne. Et puis après, il y a eu la traversée du désert pour lui. Donc, je pense sincèrement que la Red Bull n'était plus la meilleure voiture, je répète, depuis Imola. Donc, c'était peut-être la meilleure en début de saison, il n'y a pas de raison. Mais après, ce n'était plus le cas. Donc, c'est un titre formidable. Et puis, je vais laisser la parole à mes joyeux camarades, mais on pourra disséquer encore plus.
C'est vrai qu'ils sont joyeux, t'as raison, c'est vrai qu'ils sont joyeux. Non mais, alors on va quand même, sans assommer les gens avec les chiffres, mais les chiffres sont importants quand même pour placer un champion dans l'histoire. Alors, tu le disais sur cette saison, il remporte quand même 7 des 10 premiers Grands Prix, hein, c'est ce que tu disais. Et puis, à partir du du moment où il y a cette fameuse traversée du désert, c'est plus une victoire pendant 10 courses. Ça lui a été jamais arrivé depuis 4 ans en Formule 1 à Verstappen. Et derrière, il y a cette course extraordinaire au Brésil. D'ailleurs, si vous voulez vous réécouter le débrief du Grand Prix complètement malade, il est toujours disponible, bien évidemment. Moi, je vais vous donner, Louis, d'autres stats, les gars, et Jean-Luc et Paul. Cette année, Verstappen, c'est 36% de victoire sur cette saison. L'an dernier, quand il est champion du monde, il remporte 86% des courses. Ouais. C'est 68% en 2022. Ouais, c'est ça. 68% en 2022, 47% en 2021. Donc, c'est le titre le plus difficile à aller chercher dans les chiffres. Hein. C'est une saison extraordinaire. Hein. Il y a 7 pilotes qui ont gagné 2 courses ou plus. Donc voilà, en termes de concurrence, oui, là, Verstappen, il y avait toujours en fait ce truc autour de lui où on se disait bah oui, il gagne, mais il gagne parce qu'il a la meilleure voiture. Dans le plateau, il y a 8-10 mecs qui pourraient être champions du monde avec cette voiture-là. Voilà, et puis de toute manière, si jamais il roule dans une autre voiture, bah, il ne sera pas capable de le faire. Bah, là il a répondu à tout le monde que c'était faux en fait.
Exactement, la spécificité de ce championnat du monde pour moi, c'est que c'est sûrement un des championnats du monde que seul Max Verstappen pouvait gagner. C'est-à-dire que dans les autres, quand t'en gagnes 19 sur 22, c'est une prouesse dingue, mais tu mettais un autre pilote dedans, il en gagnait peut-être 12-13 et il pouvait être champion aussi. Cette année, on l'a bien vu avec son coéquipier qui n'existe pas dans cette voiture, parce que je pense que la voiture ne doit pas l'aider quand même, parce qu'il n'est pas devenu si mauvais. Et donc tu vois vraiment que Jean-Luc dit que même à la fin, ils étaient passés quatrième voiture du plateau. Et ben dans cette voiture-là, il a eu le championnat. Et puis on a fait des petits pronos. On parlait un peu de Norris, mais on sentait bien quand même qu'il allait réussir à fermer la boutique. Et donc pour moi, c'est là encore une fois qu'il montre tout son talent. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était un aspect. C'est-à-dire quand j'ai la meilleure voiture, vous n'existez pas. Je suis le seul en piste. Et quand vous avez des voitures meilleures que moi, je reste quand même dans vos pots d'échappement et je fais le match. Et à la fin, en fait, il passe 6 mois en étant loin d'avoir la meilleure voiture. Et il tient. Il y a eu quelques courses un peu compliquées et encore. Et puis après, au Brésil, il fait un truc monumental. Donc vraiment, pour moi, cette année, il se classe vraiment comme un ovni dans ce sport. Quoi. Là, il faut le classer avec les tout plus grands, Schumi, Hamilton, et voilà quoi.
Bah, Paul, on parlait un petit peu du parallèle entre Verstappen et son coéquipier Pérez. Alors moi, j'ai calculé ça. Depuis Miami, Verstappen, c'est 293 points. Sergio Pérez, 67. Donc imaginez la différence entre les deux. Oui. Paul, et puis il y a un truc aussi avec Verstappen cette saison, je ne sais pas si tu as ressenti ça toi, c'est ce côté un peu leadership. Alors il a toujours eu ce côté un peu méchant à Verstappen dans la victoire. Voilà, c'est un super champion, il est là pour gagner. S'il doit écraser quelqu'un sur son passage, il le fait. Mais là, en début de saison, Paul, on en a parlé, nous, dans le paddock. Oui, ça a été dur. Il y a eu les embrouilles entre Helmut Marko, son père Christian Horner. Red Bull a commencé la saison, c'était le fuego. Derrière, tu gagnes, ok, mais tu as des moments difficiles. Tu as un gros creux, 10 Grands Prix. Et le mec, il aurait pu lâcher parce qu'il est triple champion du monde à l'époque. Il aurait pu dire, bah, vous savez quoi, ok, bah, je me tire, je vais essayer de trouver un nouveau projet, de toute manière en plus l'ambiance dans l'équipe elle est pas bonne, et non il a tenu ouais, et ça c'est fort Paul.
Oui mais c'est fort, mais c'est peut-être, et Louis et Jean-Luc l'ont souvent dit, c'est peut-être l'un des meilleurs pilotes de tous les temps au niveau de la Formule 1, et à l'âge de 27 ans il est peut-être à la moitié de ce qu'il rêve de faire, c'est-à-dire de devenir le plus grand pilote de tous les temps avec 8 titres de champion du monde et surclassé pourquoi pas Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde sa saison, et c'est vrai que Nicolas aussi tu le précisais, il a toujours écrasé ses coéquipiers, que ce soit Pierre Gasly, que ce soit Daniel Ricciardo, il n'y avait qu'un seul homme chez Red Bull, c'était Max Verstappen, et il a construit son titre. Alors là où je ne suis pas d'accord avec vous messieurs, c'est que je ne considère pas que ce soit le titre le plus difficile à obtenir, car son début de saison est quand même extraordinaire. Cette victoire en 10 Grands Prix, et c'est ce qui lui a d'ailleurs permis d'être champion du monde, parce que sa longue traversée du désert lui a quand même permis de rester en tête de ce championnat. Et même si Lando Norris est revenu, même si Ferrari avec Charles Leclerc a quand même fait quelques coups d'éclat, on pense notamment à Monza ou encore à Monaco, il était dans un fauteuil Max Verstappen cette saison, et encore une fois, sa science du pilotage et son expérience car il y a peut-être quelques années, on aurait vu un Max Verstappen encore un petit peu fou, aller chercher, aller tutoyer la limite, ce qu'il n'a pas fait hein, sur cette longue traversée du désert encore une fois. Et sa cinquième place était largement suffisante à Las Vegas pour décrocher le titre. Et d'ailleurs, on a entendu son ingénieur lui dire, hein, on reste calme, on est focalisé sur cette cinquième place. Lando Norris est derrière toi. Donc je pense que sagesse, maturité, le talent de Max Verstappen font la différence et continueront, je pense, à faire la différence, même si aujourd'hui, c'est vrai que Red Bull n'est plus la meilleure monoplace place du plateau.
Ah mais parce qu'en fait à un moment là pendant la course Verstappen il dit les gars on est d'accord hein, on va pas se taper avec les Ferrari hein, parce que de toute manière on peut pas, et c'est là où son ingénieur lui dit non mais Max focus sur ton objectif, tu sais ce que c'est, en gros c'est Norris et on termine devant. Après quand on dit longue traversée du désert les gars quand même, alors oui il gagne pas pendant 10 courses mais c'est ça qui est super fort aussi Jean-Luc, c'est que bon il y a une voiture qui est plus forte que la sienne, c'est McLaren, mais bon il va chercher quand même des deuxièmes places partout en Autriche, là je suis en train de regarder à Zandvoort aux Pays-Bas, à Singapour, bah, il arrive à chaque fois à aller grappiller des résultats. Et de toute manière, depuis Miami, même si ça a été sa deuxième partie de saison, peut-être la plus difficile de sa carrière, en tout cas depuis qu'il est titré, il est quand même devant tout le monde. Hein, je vous le disais, 293 points remportés. Lando Norris, qui avait la meilleure monoplace, c'est 282 points pris. Donc Verstappen en prend 11 de plus, alors que on se dit que sur le papier, le rapport de force est déséquilibré. Donc même quand ça a été dur, Jean-Luc, et quand on parle de traversée du désert, le mec était quand même super fort. Il a tout maximisé.
Bah, c'est la marque, évidemment, des plus grands champions, hein, Nico. Si tu regardes, effectivement, saison après saison, bon, comme il y a eu beaucoup de discussions, y compris dans le super Moscato Show, y compris dans l'émission de Marion Bartoli, sur la comparaison avec Alain Prost, bien sûr, hein, parce que pour nous, Français, quatre fois champion du monde, pas consécutivement, mais avec deux équipes, etc. Alors, on peut toujours trouver des raisons de comparer, et puis d'autres où c'est totalement différent, et tu viens de l'évoquer avec la qualité de la voiture. Par exemple, le dernier titre d'Alain, en 93, je m'en rappelle évidemment très bien, je l'ai vécu de près, il avait obtenu la Williams, il avait une année sabbatique précédemment, et c'était Nigel Mansell, rappelez-vous, qui avait été champion en 92, avec une monoplace qui écrasait la concurrence, puisque la Williams, avec Adrian Newey comme par hasard, avait cette suspension active que les autres n'avaient pas, et donc ça donnait un avantage, ce qui ne diminue en rien le talent d'Alain, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il avait une voiture étonnamment supérieure et de manière écrasante. D'ailleurs, il remporte 7 victoires sur les 16 Grands Prix cette année-là, et c'est son meilleur ratio à lui, à Alain Prost. Bon, donc je reviens à ce que nous disions à propos de Verstappen, et je regardais les performances de Pérez, puisque vous venez d'évoquer Pérez. Eh bien, Pérez, il est à peu près constant et à peu près bon jusqu'aux États-Unis, c'est-à-dire jusqu'à Miami, où il termine 4e, où il prend 18 points pour être précis, et après, c'est l'effondrement total. Il prend 4 points à Imola. Non classé à Monaco, non classé au Canada, il prend 4 points en Espagne, enfin après c'est la bérésina totale. Donc ça confirme, puisque Pérez, on ne va pas lui enlever ce qu'il a, est un très bon pilote, mais pas plus. Sur les 6 premiers Grands Prix de la saison, il est là, il fait 18 en termes de points, 18, 18, 10, 18, 21, 18. Superbe série, on se dit, ah ben voilà, il va être vice-champion du monde, et puis paf, tout s'effondre. Pas parce que la Red Bull régresse, mais parce que les autres progressent. Et moi, j'ai une explication, enfin je l'avance en tout cas, c'est qu'Adrian Newey, nouvelle fois, qu'il ne faut surtout pas oublier dans cet hommage, eh bien, n'est plus tellement aux affaires. On sait qu'il va partir, il l'a déclaré, il l'a annoncé, c'est un type honnête. On l'a mis un peu de côté dans la conception et surtout les développements de la version 2024 de la monoplace, et ça finit par se sentir. Et après, il n'est plus du tout aux affaires puisqu'il a dit qu'il s'en allait. Et bah, j'ouvre une porte, hein, et je l'ai ouvert dans le SMS. Imaginez une seconde, puisque c'est ce qu'on reproche à Verstappen, notamment la presse anglaise, toujours perfide comme il se doit, surtout face à Norris et Hamilton, eh bien, qu'il aille chez Aston Martin, ah tiens, écurie britannique, rejoindre Adrian Newey et faire gagner Aston Martin. C'est pas une belle histoire, ça ?
Ce serait une belle histoire. J'y crois pas du tout, ouais. Mais ouais. Moi, j'ai une question, Jean-Luc. Est-ce que dans l'histoire de la F1, c'est déjà arrivé qu'un pilote soit sacré champion du monde avec une voiture, je ne vais pas dire aussi faible, parce qu'on ne va pas dire que la Red Bull, ce n'est pas un tracteur non plus, mais en tout cas, avec une voiture battue régulièrement, battue régulièrement par ses homologues.
Alors, là, l'exemple qui me vient le plus immédiat est peut-être le dernier chronologiquement. Il me semble que c'est le titre de Jenson Button, parce que Button, oui, avec la Brown, vous savez qu'il y a eu une seule année, l'écurie Brown, hein, il avait racheté les restes de Honda, entre guillemets, mais brillamment, parce que c'est un ingénieur formidable lui aussi. Hein, de toute façon, dès qu'on pense à des ingénieurs fantastiques, hein, il y en a eu d'autres, mais il y a ces deux-là, il y a Ross Brown et il y a Adrian Newey. Il avait conçu un extracteur à l'arrière fantastique, donc qui justement permettait d'avoir un effet de sol supérieur et d'extraire l'air sous la voiture. Et c'est comme ça que Button a fait une première moitié de saison absolument fantastique. Et puis après, les autres ont copié, bien sûr, et souvent amélioré. Et la monoplace n'était plus la meilleure, mais quand même, il est champion du monde, Button. Il gère un petit peu dans la deuxième partie de la saison, un peu ce qu'a fait Verstappen. Donc voilà l'exemple qui me vient en mémoire.
En 2009. Maintenant, c'était il y a 15 ans.
Exactement, ouais, il y a 15 ans.
Et Barrichello, à cette époque-là, était le coéquipier de Jenson Button. Et lui aussi avait fait de sacrées performances quand même au volant de cette Brown. Ouais. Donc, c'est vrai tout que c'était fait une année un peu particulière. Mais enfin, Nico, pour revenir quand même sur les stats de Verstappen, il reste encore deux courses à disputer au Qatar et à Abu Dhabi. Il en est quand même déjà à 8 victoires. Alors certes, la Red Bull, ce n'est plus la meilleure monoplace du plateau. Mais enfin, même si à l'arrivée, il ne remporte plus de Grand Prix, il aura quand même remporté un tiers des courses sur la saison. Ça vous place quand même un bonhomme, même si encore une fois, la Red Bull est peut-être aujourd'hui moins forte que la McLaren, moins forte que la Mercedes et peut-être moins forte que la Ferrari.
Je suis d'accord. Non mais attends, je suis d'accord. Bien sûr que le gars a été très fort, bien sûr qu'il a gagné des courses. Il a un début de saison fabuleux. Tiens, Button, en 2009, je suis en train de regarder, c'était 6 victoires lors des 7 premières courses.
Et voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est en Turquie et après la série s'est arrêtée. Après, il a géré. Il a fait au mieux. Exactement.
Mais, en fait, ce qui est peut-être encore plus beau cette saison, c'est qu'on a la sensation, Louis, que la concurrence a jamais été aussi dense. Bah déjà, dans les chiffres, ça se traduit. 7 mecs ont gagné record, deux courses ça, ou plus, ça. C'est un record.
Ouais. Ah oui, parce qu'il y a 24 courses, enfin 22 pour le moment.
Oui, voilà, parce qu'il n'y a jamais eu autant de Grands Prix aussi.
Et bah voilà.
Mais bon, ça veut dire quand même aussi quelque chose, Louis, c'est que la concurrence n'a jamais été aussi dense, forte.
Bah, c'était le souhait de cette réglementation, justement, d'arriver à ça. Au début, on n'y croyait pas trop. Et après, on était un peu frustrés parce qu'on voyait que c'était le cas partout, sauf pour les premiers. Donc, c'était un peu frustrant. Tu te disais, putain, on est assis. Red Bull n'avait pas senti un truc de plus que les autres. On se régalerait. Et puis, finalement, il a fallu patienter. Et puis, c'est vraiment cette saison qu'on a vécu ce moment-là où, à la régulière, comme tu le disais, Nico, tu as McLaren, Ferrari et même Mercedes qui sont là, et du coup ça rend la saison incroyable. Et les gens qui se détachaient un peu de la F1 en début de saison quand Verstappen écrasait tout et qu'on sortait de 2 ans et demi de Red Bull, là je peux te dire qu'ils y reviennent. Et puis nous les premiers,
là,
quoi,
les copains de Canal+, ils sont contents, je pense.
Une fin de saison comme ça, après avoir vécu 2021, ils ont du mal, ils vont quand même avoir du mal à avoir des fins de saison folles comme celle de 2021. Mais bon, 2024, ils ont été servis aussi, parce que c'est vrai que c'est la régalade. En plus, sur un plan purement français, nous, là, il y a 3 semaines, on a eu notre petit chocolat alpine et tout. Donc, non, vraiment une saison assez, comment dire, surprenante, parce que évolutive, quoi. Du début à la fin, on a eu 2 saisons en une. Après, c'est peut-être pas si surprenant, comme le dit Jean-Luc, quand on arrive à des saisons de 22 Grands Prix, il peut s'en passer des choses.
C'est vrai. Tiens, on l'a pas écouté, le quadruple champion du monde, Jean-Luc Max Verstappen, quand même. On va l'écouter. Allez.
Il y a quelques minutes, je vous montre avec Alain Prost en visio. Il a dit qu'il était très fier.
Il est au micro de Canal+,
avec vous, 4 fois champion du monde. Donc, very proud. Que pouvez-vous répondre?
Yeah, I mean, it's of course something that I never thought was possible, you know, like.
Ouais, c'est quelque
driver,
chose que
like,
je ne croyais pas possible de rejoindre des grands pilotes comme Alain.
Like, wow, you know, these guys,
on regarde leurs stats et on se dit, wow, ce qu'ils ont accompli, c'est énorme. Si un jour je peux faire un podium, je peux gagner une course, peut-être un titre. C'est déjà un rêve. Et puis après, il y a les légendes de ce sport.
To win four in a row, it's
en gagner 4 consécutivement des titres, c'est quelque chose dont je suis vraiment très fier. surtout avec la saison que nous avons vécue. Voilà, Max Verstappen au micro de nos confrères de Canal+. Bon, après, il a eu quelques petites déclats sympas. Max, il a dit, si j'avais roulé sur une McLaren ou une Ferrari, Jean-Luc, je pense que ça fait déjà quelques semaines que je serais champion du monde. Il est bon quand
alors,
même.
Moi, mais oui. Alors, écoute, moi je te dis, moi j'aime beaucoup ce mec-là. Encore une fois, on peut le détester. Hein. J'ai des amis passionnés de F1 qui le détestent parce que bon, voilà. Moi, j'aime bien ce mec-là d'abord parce que c'est un vrai pilote. Hein. Je le dis, je le répète. C'est-à-dire qu'il n'a jamais peur de rien. Il n'a jamais trop chaud. Il n'a jamais trop froid. Il n'a jamais trop peur. Il est bon, bah, pour moi, c'est ça, un pilote. Hein. Je suis désolé. C'est un type exceptionnel qui fait des choses absolument exceptionnelles. Je ne vise personne, mais je le dis. Ensuite, et les autres vrais pilotes, vous les reconnaîtrez aussi parce qu'en général, bah, Hamilton, il n'y a pas longtemps, il voulait rouler sous la pluie au Brésil. Il dit, mais pourquoi on ne nous a pas fait rouler ? Bon, Alonso, c'est pareil. Enfin, bref, les vrais grands, ils sont là, quoi. Après, effectivement, c'est quelqu'un de pudique. Parce que, comme tu l'as souligné, dans la voiture, il pleure, il a des sanglots, il ne peut pas retenir son émotion. Mais dès qu'il est dehors, il essaie d'être lisse. Bah, il a tellement été brouillon quand il était jeune. Et il avait 17 ans, je répète encore une fois, ou 20 ans, ou 22 ans, les gars. Comment on était à 20 ou 22 ans ? Bon, ben bah, voilà, bah, il était en vrac. Hein, donc, il en a fait des vertes et des pas mûres. Il le sait, sur la piste et en dehors, c'est normal. Là, il a polissé son discours. En plus, dès qu'il dit merde, tiens, ça y est, je me prends une pénalité. Il se prend, là aussi, la FIA veut des gens qui apparemment n'est pas de caractère, apparemment évidemment qu'ils en ont, mais bon, donc bah, lui il rentre dans le moule et il dit bah, il aurait très bien pu aussi ne faire aucune déclaration en disant bah, écoutez, je vous dirai ça tout à l'heure en dehors des micros officiels. Bon, il le fait pas, il a pas mauvais esprit ce garçon, donc moi j'aime beaucoup. Et puis là encore une fois, je crois qu'il a conscience du boulot qu'il fait. Il en a tellement conscience que, à mon sens, encore une fois, et pas pour des raisons de performance, je pense qu'il sait que tôt ou tard, et à 27 ans, il a encore, j'espère pour lui et j'espère pour nous, 10, 12 ans de carrière, hein, puisque maintenant, les quadragénaires continuent, hein, Hamilton continue et Alonso continue, donc on va encore se régaler. Bah, j'espère qu'il va aller, évidemment, le faire ailleurs. Il ne va pas rester chez Red Bull encore pendant 12 ans. Donc, à mon avis, on aura la réponse à ces questions. Ce n'est pas dit qu'il gagne ailleurs, comme ça n'a pas été le cas pour Vettel, par exemple. Hein, c'est tout à fait possible, mais moi j'aime beaucoup ce type-là. Encore une fois, je trouve que c'est absolument mérité, et il me tarde déjà l'an prochain d'abord de voir s'il va rester chez Red Bull. Ben, je pense que oui encore. Je pense que oui encore l'an prochain, mais en 2026 c'est pas sûr du tout. Vous verrez, à mon avis. Et puis d'autre part, ben, évidemment Hamilton chez Ferrari, etc. Donc c'est génial. Écoute, c'est bien sûr que là aussi on a voulu une Formule 1, j'allais dire. Animé, on l'a, mais pas parce qu'on écrit un scénario. C'est ça qui est génial. C'est pour des raisons sportives que ça se produit. Et ça, c'est génial. Voilà.
Moi, il m'arrive un peu une Nadal avec Verstappen. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas fan du tout. Et en fait, là, il commence à avoir tout mon respect, tellement en fait, le gars
vous
est monstrueux. Quoi.
Non, mais j'ai exactement la même comparaison que toi, Louis. C'est-à-dire qu'au début, Verstappen, tu l'as vu arriver, tu te dis mec arrogant, en plus un peu pistonné, papa pilote et tout ça. Tu sentais le mec qui avait du talent, mais tu disais lui il a un teston surdimensionné. Et en fait tu te mets à l'aimer parce que déjà en piste il est incroyable, et puis en plus il est marrant, il est drôle,
ouais,
en
il
conférence
devient
de
plus en plus ça, ouais, c'est vrai que
rien n'est
à la question pourquoi il a dit j'aurais gagné avec une McLaren, bah parce que le gros Brown a été dire c'est que ça. N'importe qui gagnait dans une Red Bull. Donc bah lui, oui. Évidemment, en fin de saison, il dit bah évidemment que j'aurais gagné avec une McLaren. Tiens, prends ça dans ton sac. Bon.
Et
il a sûrement gagné le championnat
constructeur
déjà. On va voir.
Pour quand même parler, quand même, parce qu'on a évoqué évidemment Max Verstappen et on a évoqué cette belle saison, Louis en parlait, avec pas mal de pilotes qui ont gagné, mais on a quand même, en tout cas moi j'ai cette sensation-là, peut-être à l'exception de Charles Leclerc, mais parce que je le porte dans mon cœur et que j'ai toujours porté la Scuderia Ferrari dans mon cœur, que ce ne sont que des seconds couteaux quand même, que ce soit George Russell, que ce soit même si Oscar Piastri, on en a parlé,
c'est
un pilote
quand même
talentueux. Mais ouais, mais au final, Max Verstappen est quand même largement au-dessus. Et Nico, tu évoquais sa voiture, je suis désolé. Oui, ils ont chacun gagné, mais quand on regarde le classement, Lando Norris à la mi-saison, lorsqu'il a commencé à gagner et qu'on a commencé à dire que la McLaren était certainement la meilleure voiture du plateau, eh bien, de temps en temps, il s'est pris des coups derrière la casquette, en qualification, en course. Au Brésil, eh bien, il se fait tout simplement tuer par Max Verstappen. Donc, je considère aujourd'hui que le roi, l'empereur, reste Verstappen et qu'il a des vassaux autour de lui qui sont capables de gagner des courses, qui sont capables de le titiller, mais ils ne sont pas, à mon avis, encore au niveau du pilote néerlandais, tout simplement.
C'est vrai. C'est vrai. Tu m'as confié.
À l'exception d'Hamilton, bien sûr, Paul.
À l'exception d'Hamilton, ouais, mais Jean-Luc Hamilton, bon, on sait qu'il était, il avait peut-être déjà le cerveau déjà à Maranello, des coups d'éclat en Angleterre, à Spa-Francorchamps, mais enfin, vraiment, à l'exception de Lewis Hamilton, j'ai quand même la sensation qu'il n'y a pas un vrai rival aujourd'hui qui puisse empêcher Max Verstappen de continuer de dérouler et pourquoi pas d'aller chercher un cinquième, un sixième titre et pourquoi pas de devenir un jour le meilleur pilote de tous les temps.
Et tu as raison, j'allais dire pour la saga, pour ce dont on se rappelle, parce que c'était ça le retour, hein. Je fais encore une fois référence à Bartoli Time et au SMS, bien sûr, c'est ce qui reste dans la mémoire. Ce qui reste dans la mémoire, c'est les grands duels, et les grands duels, c'était Prost-Senna, et ça, tu ne peux pas en sortir, parce que tout le monde revient vers ça, et là, il lui faut, effectivement, peut-être un Hamilton chez Ferrari, ou un Charles Leclerc, moi aussi, évidemment, j'adore Charles, donc quelqu'un qui soit capable de s'opposer à Verstappen sur tous les types de terrain et sur toute la saison. Et là, on va avoir un trio, hein, pourquoi pas un trio.
Alors, nous, on prend tout, hein, on prend tout, Jean-Luc, on est gourmands, nous. Hein.
C'est bientôt les fêtes, en plus.
Ah bah oui. Il y en a un, par contre, là, qui a pas été ce rival-là, c'est dur, quand même, parce que Lando Norris, il a quand même fait des choses cette saison, mais c'est vrai que cette course au Brésil... ça l'infantilise un petit peu par rapport à Verstappen. On va l'écouter, Lando Norris, et sa réaction aussi. On va l'écouter et je vous fais réagir après sur sa réaction. Moi, ça m'a surpris, mais ça colle un peu avec le bonhomme, avec ce qu'on a vu depuis le début de saison.
Many difficulties, so it was a terrible
race. Beaucoup de difficultés race, sur cette course, donc ça a été, c'est horrible.
Not to say. It was terrible from us.
Il y a pas grand chose à dire, c'est horrible pour nous. Je veux juste féliciter Max.
More than anyone.
Il le méritait plus que quiconque, il a gagné ce championnat.
Really any mistakes from him and
il a fait très peu d'erreurs. C'est toujours plaisant à voir, même de mon côté c'était plaisant à voir. On s'est livré une belle bataille, mais bravo à lui. Voilà, c'est... En fait, j'ai envie de vous faire réagir parce que j'ai pas l'impression que la réaction de Lando Norris, ce soit la réaction d'un mec qui a l'étoffe d'un champion du monde. Il est trop gentil, il est trop mignon, là encore, Lando Norris. Il a fait un post sur les réseaux sociaux où il a mis une photo avec Max Verstappen. Je ne sais pas si vous avez vu ça, quand Verstappen, qui est un peu plus vieux que lui, faisait du kart, avec un message super gentil où tu as l'impression que il est avec son idole, en fait. Il tient la main de son idole. C'est... Mais il va falloir qu'il sorte de ça, Jean-Luc, Lando Norris, sinon il n'y arrivera pas.
Écoute, je me répète encore une fois, c'est un très très bon pilote, c'est une évidence, et encore une fois, peut-être l'an prochain, il faut toujours placer, c'est lui qui va être champion du monde, et tant mieux, on pourra nous rappeler qu'on a dit ça. C'est un très gentil garçon, mais pour moi, il n'a pas la niaque, il n'a pas faim, c'est pas un hargneux, c'est pas un teigneux, c'est un trop gentil, et on n'est pas champion du monde quand on est trop gentil. En plus, il est apparemment quand même fragile psychologiquement, et moi je te dis que celui qui va le bouffer, c'est son équipier, c'est Oscar Piastri, tu vas voir. L'an prochain, c'est sûr, le Oscar, il a quand même 133 grands prix au compteur. Norris, c'est plus un perdreau de l'année, lui non plus. Il a 25 ans. Alors, à 25 ans aujourd'hui, et Verstappen n'en a que 27. Non, là, il a raté le coche, là. Il aurait dû être champion du monde. Franchement, pour moi, je le dis crûment, il aurait dû. Si, d'abord, il a dit lui-même en fin de saison qu'il n'était pas assez bon en début de saison. Bon, et ça, c'est vrai. Mais je dirais qu'il n'est pas assez bon en fin de saison non plus. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas champion du monde. C'est cruel, c'est affreux, mais c'est comme ça. Et puis, bon, le Brésil, là, il a massacré Verstappen. Mais on le dit, on le répète, dès que c'est mouillé comme ça, dès qu'il y a de l'adhérence précaire, ça y est, on voit les grands pilotes, on voit les grands champions, on voit les mecs d'exception. On voit, je l'avais dit, on peut comparer ça à Ayrton Senna, Donington, avec la McLaren, où il double tout le monde dans le premier tour, dans les deux, trois premiers tours. C'était du grand Verstappen. On attend cette course-là de Lando Norris. On l'a pas vu encore. Hein. Vous êtes d'accord?
Ouais, il faudrait peut-être aussi que son écurie se mette au niveau quand même, parce que on peut parler de Fèvre quand même cette saison. A laissé gagner Piastri, d'écurie. Ça ne l'a pas aidé non plus. Ça ne l'a pas aidé non
plus.
Lorsque l'on regarde 13 podiums sur l'ensemble de la saison, avec seulement 3 petites victoires pour un pilote qui est censé avoir la meilleure Formule 1 du plateau. Excusez-moi, messieurs. Mais à ce niveau-là, encore une fois, Max Verstappen dans la McLaren, il aurait été champion du monde il y a déjà un petit moment.
Ouais, mais je sais pas, Louis, toi, comment t'as perçu ce truc sur les réseaux sociaux, mais alors c'est bien, hein, franchement, belle bataille en piste avec Max, il remercie, voilà, il dit qu'il a été meilleur, tu vois, c'est fair play, mais je crois qu'en fait, en Formule 1, on s'habitue quand même à avoir des salauds qui gagnent. Pas des salauds, le mot, il est...
Non,
mais
le mot, il est
fort. Des teigneux, des méchants. Des teigneux. Et quand t'as un gentil garçon comme ça qui est là, qui est vice-champion du monde, enfin, qui le sera peut-être, et tu te dis forcément, Louis, que ce gars-là, bah... Il a pas l'étoffe de ses prédécesseurs. C'est peut-être dur, mais peut-être qu'on se trompe. Mais là, actuellement, c'est ce qu'on se dit forcément. Et moi, quand j'ai vu ses célébrations après la course, je me suis dit, t'as, même là, le gars, il a pas un discours un peu de rageux, quoi. Même là, tu vois, il a pas un petit côté. J'ai envie de le crever pour l'année prochaine. On se donne rendez-vous. Max, t'es mon pote, mais allez, on va en découdre, quoi. Tu vois.
Ouais, ouais. Et puis, c'est pour moi, en fait, je suis surpris de ça parce que je vous en avais déjà parlé. J'avais en tête un Norris justement qui avait plutôt ce truc-là. Je me souviens à l'époque de Ricardo quand il l'écrasait en zone mixte derrière, il était pas une seconde tendre avec son coéquipier. Il était toujours très c'est la compète, la course, machin. Et donc je m'attendais pas forcément à le voir un peu fondre comme ça sur le plan de la com, sur le plan du caractère. Et vous avez complètement raison, c'est ce qui est en train d'arriver. Alors peut-être qu'il s'est tout simplement rendu compte que le jour où il a pu se battre, on va dire à peu près d'égal à égal avec Max, qu'il était plus fort et que finalement il l'a juste il l'a adoubé, quoi. Il s'est mis à genoux parce que aujourd'hui dans sa communication à tous les niveaux, même sur le circuit, tu sens que il est clairement un ton en dessous et que comme tu dis, bah c'est pas comme ça que tu vas aller le battre l'année prochaine, parce que déjà pour le battre il te faut souvent une voiture meilleure et ne pas faire d'erreur. Donc t'en es encore loin.
Ouais, il en est encore loin et on va voir ce que ça donne l'année prochaine. Ça s'annonce.
Mais il y en a un j'ai peur qui nous fasse un peu le même souci, c'est Charles, parce que t'entendais ce qu'il se disait dans la radio ce week-end. Charlie,
on va parler de Mercedes quand même, les gars, même si on va pas faire 10 000 ans sur la victoire de Mercedes, mais quand même, week-end parfait de George Russell signe la pole, qui s'impose, on le disait, troisième victoire en carrière. Russell qui a été quoi qu'on en dise, Jean-Luc, plutôt solide cette saison. Et doublé du coup pour Mercedes, avec un Lewis Hamilton qui part dixième sur la grille et qui pour le coup réalise une belle course avec de belles manœuvres en piste, qui arrive à aller chercher cette deuxième place. Ce qui est quand même assez fou là-dedans, Jean-Luc, c'est que personne n'a capté du côté de Mercedes pourquoi ils ont gagné. On ne sait pas pourquoi cette monoplace, elle marche bien dans le froid. On n'en sait rien, mais ils sont là, quoi. Ils étaient contents, ils ont pris les points, heureux.
Bah voilà. Alors il y a beaucoup à dire, c'est vrai, sur Mercedes, et là aussi je vais avoir évidemment la dent dure, c'est ce que vous aimez. Donc je commence par féliciter George Russell, parce que finalement lui il passe un peu à l'as, le pauvre, hein, il remporte une belle victoire et il a fait la pole, magnifique, il part devant, il fait zéro faute, il gagne, normal, impeccable. Bon, évidemment on se focalise aussi, et c'est normal, sur la très belle remontée de Lewis Hamilton qui part 10. C'est bien la preuve que là la meilleure voiture de très loin c'était la Mercedes. Encore une fois, les ingénieurs, les pilotes, enfin personne ne sait pourquoi, ni même Toto. Alors c'est dans le jardin de Toto que je vais envoyer mon pavé, comme il se doit. Vous avez vu le sourire un peu crispé à l'arrivée. Ça me rappelle, c'est mieux quand même qu'à Spa-Francorchamps, où là il était en train de téléphoner à je sais pas qui, ou à jouer un petit jeu vidéo dans le fond du garage, vous vous en rappelez quand même. Ça m'avait choqué. Comme par hasard, la monoplace de Russell n'était pas au poids. C'est bizarre. Et c'est Hamilton qui gagne, dis donc, qui était deuxième. Là Toto avait retrouvé le sourire. Bon, allez, je vais arrêter dans la satire. Mais simplement, il aurait dû gagner, si vous voulez bien, celle de Spa aussi. Parce qu'il avait fait une belle course, Russell.
C'est pas
Hamilton qui aurait dû la gagner. Il devrait en être à 3 Grands Prix. Donc, effectivement, il est sous-estimé, y compris par son équipe. Et ça, moi, je considère que c'est dramatique. On a bien compris que Toto, ça y est, il avait adopté Antonelli, dont il a fait, effectivement, son fils préféré. Donc, le pauvre Georges, il va avoir une saison encore 2025 un peu pénible, parce qu'il est censé être le chef de file chez Mercedes. Mais on lui fout un gamin dans les pattes. Alors ça, il va en pulvériser les monoplaces. Là, je peux dire qu'ils ont intérêt à prévoir des châssis. Hein, ça, je peux déjà vous le dire aussi, chez Mercedes. Et donc, je pense que Georges, là aussi, c'est un Britannique, comme Lando. Beau gosse, sympa, souriant, mais il faut qu'il trouve la hargne. Voilà, c'est juste ma leçon. C'est qu'il faut qu'il devienne teigneux et qu'il mette des peignées à son équipier, en l'occurrence Hamilton. Il lui reste 2 Grands Prix pour lui mettre des grosses peignées. Voilà.
Ciao, on va l'écouter, le roi George, après cette victoire.
We heard your radio singing Viva Las Vegas. Can you do it again now, please?
Le journaliste de Canal+ qui lui demande s'il peut rechanter Viva Las Vegas.
Maybe in 2 hours time,
non, c'était dans l'émotion. Il dit peut-être que dans 2 heures je chanterai à nouveau sur le dance floor, mais je suis vraiment très heureux.
The two times before we started on pole was Montreal.
Les deux dernières fois où je suis parti en pole, il y a eu Montréal, c'était une course difficile, mouillée, sec, mouillée. Puis il y a eu Silverstone, j'étais devant facilement et j'ai dû abandonner. En Belgique, enfin une victoire, mais non, disqualification. Au Brésil, je suis devant et puis il y a le drapeau rouge. Alors pendant la course, j'attendais que quelque chose me tombe dessus, un arbre sur la piste, des drapeaux rouges, une voiture de sécurité. Mais il ne s'est rien passé. Et je crois que nous l'avons vraiment mérité. Mais c'est vrai qu'il a pas. C'est vrai que quand il nous répète le truc comme ça, là, il nous écrit le truc, il a pas eu de peau, l'ami Georges. Souvent, quand il était en tête d'une course ou qu'il faisait la. Ou qu'il signait la pole. Mais c'est vrai qu'il a aussi lui aussi un petit capital sympathie. Paul, je sais pas ce que t'en penses, George Russell. Moi, j'aime bien ce gars aussi. Voilà.
Je l'aime bien. Et puis, il a fait ses preuves. C'est un excellent pilote. Mais j'ai envie de le comparer à Lando Norris. Hein. Je mettrai les deux sur un pied d'égalité, même si, encore une fois,
il n'a pas la même voiture.
Encore une fois, la McLaren était meilleure que la Williams, que la Mercedes cette saison. Quoique, hein, parce qu'au final, c'est deux victoires quand même pour George Russell. Lando Norris n'en a gagné que trois courses cette saison. Mais c'est vrai que ouais, c'est un gentleman britannique. Qui va vite, qui conduit bien, mais qui tarde quand même à confirmer. Et ça sera peut-être aussi compliqué pour lui l'année prochaine, peut-être encore une fois dans le viseur de Toto Wolff. En tout cas, bon, chapeau bas, parce que c'est vrai que Jean-Luc le précisait, c'est quand même un magnifique week-end, pole position, victoire doublée pour Mercedes. Reste maintenant à savoir pourquoi elle fonctionne si bien dans le froid et qu'elles sont quand même de temps en temps complètement à la rue, hein, comme sur certains Grands Prix. Eh bien, l'équation reste entière et je pense que les ingénieurs de chez Mercedes vont se creuser la tête pendant encore au moins deux Grands Prix pour savoir pourquoi elles arrivent à gagner dans des conditions pareilles.
Ah bah ça va être nickel. S'ils sont bien dans le froid là au Qatar, ils vont se régaler, je pense, les copains de chez Mercedes.
La voiture, elle va exploser.
Il y a une stat quand même entre Russell et Hamilton. Ils ont disputé 66 courses comme coéquipiers depuis qu'ils sont chez Mercedes. Il a battu Lewis 33 fois. Donc voilà, 50%, 50-50. Et il s'est mieux qualifié que lui 37 fois. Donc le rapport de force, il est vraiment... Il est quasiment à l'équilibre. Et en qualif, il fait un peu mieux, Russell.
Ah bah en qualif même, ouais, ces derniers temps, il est clairement au-dessus. quand tu fais pole et 10, il y a peut-être un peu autre chose. Mais sur les autres Grands Prix dans l'année, c'est quelque chose qui a été assez régulier. Alors, est-ce que ça, c'est dans la tête d'Hamilton ou c'est vraiment Russell qui est meilleur ça, très, très difficile à savoir. Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut aussi... Il a du mental, lui, hein, parce que quand il tenait chez Williams pendant 3 ans, c'était compliqué. Il faisait toujours des très bonnes courses. Mais en plus que du mental, c'est aussi un peu de méchanceté, quoi. C'est la génération, ils se connaissent tous, ils sont un peu trop potes. Et sauf qu'au milieu de tout ça, il y a un requin qui mange tout. Il va falloir commencer à le mordiller un peu, parce que sinon, ils vont faire 10 ans de carrière, très très belle carrière, quelques podiums, quelques victoires, et puis ils vont rentrer bredouille à la fin de leur carrière, quoi.
Qu'est-ce qu'on en pense, là, de cette course, de ce week-end d'Hamilton,
bah, les gars ? Qu'est-ce qu'on en pense ? La course est monumentale et la qualif est piteuse. Alors, c'est compliqué d'en penser quelque chose de bien. Moi, je laisserai les gars parler, parce que je dirais rien de plus sur Mercedes, à part qu'il y avait une personne qui avait tout vu avant ce week-end, mais je ne dirais pas qui. Je vous laisse juste télécharger le warm-up Las Vegas. Vous aurez la réponse. Puisque j'avais dit, de toute façon, cette piste, elle est incompréhensible comme la voiture Mercedes, donc attendez-vous à aller voir devant. Et ça a marché.
Non, mais c'est vrai que tu avais dit ça. Alors, tu avais dit ça en faisant une vanne, quand même.
Voilà. Mais ça, faut pas le dire. Tu sais, quand tu as dit un truc bon, tu le rappelles, voilà, avec aucune modestie. Et puis, quand tu dis un truc faux, surtout, tu l'oublies. Mais ouais, je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est vrai que j'étais devant ma télé, tout fier de moi, en me disant, bah, dis donc, ça marche. Mais c'est vrai que la course d'Hamilton, en revanche, ça fait toujours plaisir. On adore voir des courses, des remontées comme ça. On avait eu le droit à Verstappen récemment. Là, c'en est une autre, un peu différente, un peu moins spectaculaire. Mais c'est vrai que c'est l'essence même. C'est toi, quand tu es sur ton jeu de F1 petit, tu pars dernier et tu remontes tout le monde. C'est limite mieux que partir premier, tu vois. t'as beau avoir mis l'ordi en mode facile, ça pareil, tu le dis pas. Mais voilà, donc c'est vrai que ça, c'est toujours sympa à regarder. Et Hamilton, quand il fait ça hier, c'est super, quoi, on se régale.
Il y a cette image à la fin là où tu as les mécaniciens Jean-Luc de chez Red Bull qui descendent, qui viennent le féliciter. Parce que c'est vrai que pour le coup, il fait une grande et belle course. Et que ça a limite. Enfin, moi, ça m'a surpris de le voir faire cette course là. Après, en qualif, franchement, très honnêtement, c'est un peu incompréhensible de le voir partir 10. On ne sait pas trop ce qui se passe. Si ça vient de l'écurie, si ça vient de lui, de la voiture, bref, on ne sait pas. Et on se dit que derrière, en course, il va se laisser absorber par un peu son spleen là, qui traîne depuis plusieurs semaines. Et non, la voiture marche bien et on retrouve quand même le champion qu'il est, quoi.
Alors c'est ça, le meilleur, j'allais dire, côtoie le moins bon, on ne va pas dire le pire. Hein. En qualif, on rappelle qu'il s'est complètement raté dans son tour le plus rapide. Hein. Vous avez vu l'image,
oui.
Il est sorti, il aurait été qualifié beaucoup mieux que ça. Surtout qu'encore une fois, ce week-end, la meilleure monoplace est de loin. Et vous savez ce que je vais vous asséner maintenant, c'est mes fameux meilleurs tours en course. Hamilton, il tourne quand même en 1.35.480 au 41e tour. Même Russell, le vainqueur, ne tourne pas aussi vite. 1.35.717. Et puis derrière, on est moins bien chez Ferrari. 1.35.8 pour Sainz. 1.35.6 pour Leclerc. Et le pauvre Verstappen, parce que c'est que ça. 1.36.2. Rendez-vous compte. Donc, il rend 8 à 9 dixièmes au tour à la Mercedes. Donc, encore une fois, c'est pas pour y revenir, mais Verstappen fait l'exploit. Donc Hamilton fait une remontée canonesque, géniale. On est ravis, on l'a retrouvé. On l'avait perdu un peu pendant les essais. Enfin, il s'est loupé, disons, ça peut arriver à tout le monde. Et comme il n'a eu qu'une tentative... Non, moi, simplement, je voulais dire que quand il a la voiture, il performe remarquablement. Et dès qu'elle est moins bonne, il baisse un peu les bras. Parce que les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure, c'est-à-dire l'équité sur l'ensemble de la carrière chez Mercedes, hein, c'est bien ce que tu as dit.
Ouais.
33
ouais.
Sur 66, c'est pile la moitié. Alors que quand même, il a été dominateur... un bon moment, Hamilton, avec ses titres et tout, faut quand même le rappeler, c'était il y a 4 saisons, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis après, donc on a les pôles, et là, on voit, enfin les pôles, pardon, les qualifs, et là on voit que Russell est plus rapide. Ça dit quand même quelque chose, je ne vais pas dire d'une certaine démotivation d'Hamilton quand il n'a pas la voiture, mais ça ressemble un petit peu à ça quand même, hein. C'est là que je veux en arriver. Donc j'espère que, et en revanche, quand il a une bonne auto, on le retrouve, comme là, remontée canonesque. Alors j'ai envie de dire, est-ce que n'importe qui dans la Mercedes aurait fait pareil? Non, c'est exprès, c'est de la provoque. est-ce que Norris ou Charles... dans la Mercedes en partant 10, il faisait que deux ou il gagnait la course? Allez, c'est juste pour rigoler.
Ouais. Tiens, on ouvre le dos Ferrari maintenant, les amis. Ferrari qui est revenu plus que jamais dans la lutte pour le titre constructeur. Je vous le rappelais, mais 24 points d'écart, 24 points de retard seulement sur McLaren, qui perd des points avec Norris seulement 6e et Piastri 7e. Les Ferrari qui font 3 et 4. Mais nous, ce qui nous intéresse, Paul, c'est qu'il y a eu un petit imbroglio en piste là, entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. Il faut que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé, les deux pilotes qui se sont tirés la bourre. On sait que les deux s'entendent bien, globalement on voit plein d'images et tout ça a déjà été chaud sur la piste, hein, mais ça s'est toujours réglé de façon assez cordiale. Mais là, il y a eu un événement marquant qui a déclenché la colère de notre Carlito, quoi.
Ben ouais,
de notre Carlito, Leclerc.
Ouais, de Charles Leclerc, ouais, qui a pas trop compris les consignes qui n'ont pas été respectées. Alors c'est vrai qu'au final, tu évoquais cette lutte pour le titre des constructeurs, les Ferrari font 3 et 4, mais Charles voulait le podium. Finalement, c'est Sainz qui hérite de cette troisième place, qui sera l'année prochaine aux fraises chez Williams, et qui donc veut gagner le maximum de points et glaner le maximum de podiums. Mais c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible, et d'ailleurs on l'a pas très très bien compris, enfin je sais pas comment vous l'avez interprété, vous messieurs en course, mais cette guéguerre interne entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui ne seront plus coéquipiers la saison prochaine. On peut comprendre. En tout cas, je me mets à la place quand même de Carlos Sainz, qui ne sera plus dans un baquet l'année prochaine, dans une Formule 1 capable de gagner ou de faire des podiums. Coûte que coûte, il ne respecte pas les consignes d'écurie et va tout simplement déposer Charles Leclerc pour la troisième place. C'est comme ça que je le vois. Alors, on peut comprendre, encore une fois, que Charles Leclerc soit un petit peu courroucé. Mais bon, ça reste du sport automobile, hein. Il y avait une course à terminer. Et cette fois-ci, c'est Carlos Sainz qui termine devant Charles Leclerc. j'ai pas envie d'épiloguer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
Non,
mais,
parce
moi,
qu'en fait,
bon,
en fait, ce qui se passe pour raconter aux gens qui nous écoutent, c'est que 28e tour, je crois que c'est le 28e. Mais il y a Leclerc qui double Sainz, donc qui récupère l'avantage sur Carlos Sainz. Là, on se dit, Louis, que Ferrari va protéger un peu les places. Parce que Leclerc, mine de rien, il a la deuxième place du championnat à viser, et puis que peut-être aussi pour assurer ces points-là, pas prendre de risques et tout. Et alors que Charles pense que les consignes vont être passées, en fait, il y a Sainz qui le saute 3-4 tours après, je crois, c'est ça. Et c'est là où Leclerc, dans la radio, dit « j'en ai marre d'être trop gentil ». En gros, c'est ça, j'en ai marre d'être trop gentil, ça me retombe tout le temps sur le coin de la figure. Et ça t'a pas plu, Louis.
Il a peut-être un peu raison en soi, mais maintenant, il faut peut-être arrêter de le constater et juste arrêter d'être trop gentil, tout simplement. Tu vois, genre... parce qu'en soi, c'est le bon gars, c'est le bon pilote. Quand t'es team principal, tu veux un pilote comme Charles, il écoute les consignes, même dans des moments difficiles et tout. Mais c'est souvent, à la fin, le numéro 1, c'est celui qui, 2-3 fois, a su pas trop les écouter parfois. Donc, c'est peut-être aussi un peu ce qui lui manque, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, quand on parlait de ce fait-là. C'est que Charles va peut-être aussi falloir qu'il soit plus méchant, parce qu'il a tous les talents, il a tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Mais là, le problème, c'est que son coéquipier qui aura la même bagnole que lui, c'est le GOAT. Donc, il n'aura pas le temps de se laisser bouffer, là, s'il veut avoir des chances de s'en sortir et de ne pas être condamné à des secondes places. Va falloir aussi, tu vois, comme les animaux, quand ils marquent leur territoire, à Maranello, va falloir qu'il le fasse, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça faisait un peu, Jean-Luc... Ouais, je vais pas dire pas caprice d'enfant, pas du tout, mais c'est un peu. Ah non, mais moi je suis toujours le plus gentil,
ouais,
et tout
ça,
et c'est toujours moi qui me fais avoir.
Non, mais
c'est ce qui crée les vilains normalement, ça.
Ouais. C'est vrai qu'après, il y a les conversations qu'on nous passe. Hein. Déjà, on n'a pas forcément toutes, vous le savez, pas toutes les conversations. Il y a peut-être des choses qui sont dites avant et qu'on n'a pas eues. Donc, on nous donne, évidemment, quand c'est spectaculaire et intéressant. Moi, je vais juste vous rappeler les arrêts au stand. Charles, il part avec les médiums. La majorité, évidemment, part avec les médiums. On l'arrête au 10e tour. On arrête Carlos au 11e tour. D'accord ? Et ce dont vous parlez, et c'est justement ça, c'est qu'on lui a fait un coup d'undercut à Charles. C'est ça qu'il n'a pas aimé. Parce qu'il vient de passer effectivement Carlos sur la piste, et paf, on arrête Carlos au 29e tour pour lui monter les durs, hein, c'est le deuxième et dernier arrêt, et puis on arrête Charles au 32e tour. C'est là qu'il râle. Et forcément, il a raison. Parce qu'on lui fait, à lui, c'est son équipier qui lui fait un coup d'undercut. Donc il dit, mais les gars, à quoi vous jouez là ? Donc pour lui... En l'occurrence, c'est un podium en moins et surtout 3 points en moins dans la chasse au Norris, parce que la chasse au Norris est ouverte. Hein. Il est remonté à 21 points seulement. Donc là, il prend 12 points ce week-end et Norris en prend 9 avec le meilleur tour en course juste à la fin. Il aurait pu en prendre 3 de plus, donc remonter à 18 points. Et le titre de vice-champion, et ça ne changeait rien pour Ferrari, on est toujours d'accord, puisque Ferrari faisait 3 et 4. Donc au classement constructeur, et on va finir évidemment par en parler aussi, hein, où là aussi l'écart se réduit. Et voilà, donc moi je comprends. Alors après, c'est vrai que je te dis, la manière dont on nous diffuse, c'est le cas de le dire, les messages à la radio, ça fait le mauvais petit garçon. Mais moi, je pense qu'il va... je pense que Charles, c'est un teigneux qui s'ignore. Et vous allez voir que l'an prochain, face à Hamilton, parce que là, effectivement, on lui met le loup dans la bergerie, là, et le mouton, il va arrêter de se faire tondre en continuant de bêler. Hein. Là, je pense que l'an prochain, on va y avoir droit. Et c'est bien, ils vont s'en mettre des tartes. Et pour le plus grand intérêt et du sport automobile, et de Ferrari, et le nôtre, tiens.
Ouais, c'est vrai que ça va être chouette. Et puis les gars, on va terminer quand même
avec Alpine.
Ah non, je te vois venir.
Il faut.
Et on a même pas parlé de McLaren, les gars. On a même pas parlé de McLaren.
Mais non, mais j'y suis pour rien, Polo. T'étais pas avec nous quand ils ont fait leur seule bonne course de la saison. T'étais pas là, donc j'ai pas pu te lancer sur Alpine. Donc voilà, t'es là, c'est pour toi. Non, mais on va tous réagir. On va tous réagir à ça, mais juste, je refais un peu le contexte. Pierre Gasly qui nous fait une qualif, incroyable. Troisième place, P3 pour Gasly avec un tour. Mais je vous conseille d'aller voir, si vous pouvez regarder la caméra embarquée de Gasly, où vraiment, mais il vient lécher tous les murs de ce circuit de Las Vegas. C'est assez dingue. Il arrive à aller chercher la troisième place. Là, on se dit, incroyable. Il surfe sur le truc encore, voilà. Ocon en plus fait 11, donc on se dit, franchement, il y a de la vitesse, l'équipe va mieux, hein Jean-Luc ? T'es d'accord avec moi ? On se dit ça va.
Ah oui, 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 le tir groupé est formidable, hein, là. Ah ouais, on se dit, on va être dans les points, là. Attends, sur le,
on va prendre des points, ouais. On va potentiellement peut-être conserver la 6ème place, et là, en course, le pauvre Gasly, problème moteur, perte de puissance terminée, avec quand même cette scène assez incroyable. Là encore, à la radio, c'est pas trop ce qui se passe. Mais Gasly qui dit les gars j'ai un petit souci de moteur, son ingénieur qui lui dit oh ben non mais moi je vois rien de mon côté et l'autre qui lui répond mais mec j'ai plus de moteur et tu vois la voiture qui est en feu
ah oui y a ça
fumée dans
tout,
tous les sens ouais, ouais. et puis t'as le truc avec Ocon aussi
ah oui c'est ça c'était le meilleur garage des deux c'est ça qu'il faut dire meilleur, ouais. Parce que le pire ça arrive putain.
Ah vous êtes mais pas ça, là c'est... les gars bon bah tant pis je vais revenir
où il rentre au stand les mécaniciens sont pas prêts donc du coup il fait un passage au stand pour rien et il termine 17ème. Paul, c'est dommage parce qu'ils avaient, tu vois, au niveau de l'image, ils avaient redoré tout d'un coup là après le Brésil. Franchement, ça avait un peu évaporé auprès du grand public tout ce qui s'était passé avant et là, bim.
Ouais, mais évidemment, le Brésil, c'est quand même un concours de circonstances hein, dans le plus fou des Grands Prix de la saison 2024. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'y croire. C'est vrai que cette qualification est magistrale de Pierre Gasly, qui à la régulière aurait pu rentrer dans les points, hein, peut-être 9e ou 10e, avec Ocon qui avait là aussi de la vitesse. Bon, alors, une casse moteur, hein, ce n'est pas la première cette saison pour Alpine. Et puis derrière, la Bérésina, quand on sait ce que coûte quand même une écurie de Formule 1 avec des ingénieurs, avec des mécaniciens et de voir la Esteban Ocon rentrer et faire un tour pour rien pour revenir au stand. Enfin, je sais pas, Jean-Luc, toi qui vis la Formule 1 depuis des années, c'est pour le spectateur moyen, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour nous qui aimons la Formule 1 et qui la commentons et qui la suivons. Mais alors là, vraiment, mais le pauvre Esteban Ocon, mais dans son baquet, mais qu'est-ce qu'il se dit quoi ? Il dit, mais c'est pas possible quoi. En fait, ils étaient déjà plus là, ils étaient déjà partis au Qatar. Enfin, je sais pas, mais
boire un coup,
c'est complètement
un coup,
dingue.
Fêter le Brésil.
Non, c'est complètement dingue.
C'est ridicule et honteux, quoi. Voilà les deux mots hein, qui s'imposent, parce que c'est pas admissible une demi-seconde. Surtout quand tu penses qu'en permanence, ils ont la position de la voiture sur la piste. Ils ont même pas besoin de la voir. Tu sais, il y a des GPS partout. Ouais. Ils sont, je ne sais pas combien, de dizaines d'ingénieurs, mais vraiment, c'est le minimum, y compris dans le fond du stand, à regarder et ça les émeut pas plus que ça, je veux dire, ils sont même pas capables d'être prêts, alors c'est complètement clowné, c'est au 12e tour, surtout qu'à ce moment-là, il y a quand même un paquet de pilotes qui se sont déjà arrêtés, donc lui aussi évidemment, Esteban il est parti avec les médiums, hein, donc on va lui mettre les durs et puis bon, après on fait le petit arrêt au 47e pour lui mettre les softs pour essayer de gratter le meilleur tour en course, bon ça c'est un rideau de fumée pour essayer de masquer la misère, mais autrement, oui le pauvre Esteban, il y a de quoi se les mordre hein, c'est le cas des gants bien sûr, à cause du froid. Non. Non, mais c'est vrai que c'est clownesque, ridicule, on va pas en dire plus parce qu'on va pas leur mettre la tête sous l'eau, mais comme tu dis, il y avait l'embellie du Brésil, sincèrement due avant tout aux pilotes, hein, je le dis, je le répète, avant tout au talent des pilotes, parce que les conditions étaient difficiles, et puis le fait de pas les avoir arrêtés, on va dire, ils ont été premiers au concours de circonstances, voilà.
Ouais, non, mais ce qui est dommage, ce qui fait de la peine, c'est que tu te dis que ça avait peut-être créé aussi un peu de
ouais, une dynamique dans l'équipe,
une dynamique, et que tu peux très bien finir ce week-end-là avec cette P3 et on va dire même avec la casse moteur, parce que la casse moteur ça arrive, même si c'est drôle parce que la stat du week-end c'était Gasly est le seul qui a coûté 0 euro à son écurie et tout, paf, le moteur il a pété et c'est toujours comme ça, et du côté d'Ocon il aurait pu, comme dit Jean-Luc, attraper les points ou quoi, et bon tu sors d'un truc où tu... Et là, en fait, non, c'est trop ridicule pour que ça retue pas toute une écurie, en fait. Enfin, moi déjà, rien qu'en juste en supporter, j'étais mort de honte. Alors, je me dis, quand t'es à l'intérieur du garage, mais le coup de massue que ça doit être, si t'es pas fautif, t'en veux à tous tes collègues. Et alors, si t'es fautif, voilà, là, la nuit, elle a dû être sympa, là.
C'est clair. En tout cas, zéro pointé qui a des conséquences, hein, parce que trois semaines après double podium à Interlagos, t'as As qui reprend d'un point la 6ème place et t'as RB qui revient à 3 points. Donc,
c'est pas joué.
Ouais. C'est loin d'être joué. Bah voilà les gars, on a fait le tour. Sinon qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Franco Colapinto quand même qui a marbré sa Williams en qualif.
Alors Nico, ton pilote préféré, là, ton petit génie là. Je rigole.
Mais je l'aime quand même. Excusez-moi. J'aime le fait qu'il y a un Argentin, même si on connaît les Français, l'Argentine, c'est pas l'amour fou, pas à cause de la Formule 1, mais voilà. Mais j'aime.
Vendredi, c'était l'amour fou.
Ah non. Oui. Ah non, c'est fabuleux. Attends, puis l'esprit, je peux vous dire, de Fangio, il est toujours là-bas. Hein. Vous avez vu comment il s'emballe là? Il y a un jeune pilote de 21 ans qui revient et ça y est, c'est toute l'Argentine qui flambe dans le
bon
sens.
Ah mais merci Jean-Luc.
Maintenant, il est abonné à tous les journaux, tous les quotidiens.
Mais oui, c'est ce que je leur disais dans le warm-up. Le mec a la même couverture médiatique que Léo Messi, limite. C'est incroyable. Ses faits et gestes sont épluchés. C'est complètement fou l'engouement qu'il y a autour de ce gars-là. Donc voilà. Bon, il a pu quand même participer à la course. Colapinto d'ailleurs il termine combien, 14 je crois, 14e ouais. Après examen,
mais bon, il est parti des stands, hein. C'est toujours
et
pareil,
puis il est parti des ouais il est parti des stands, et puis sinon sinon voilà, et ben sinon Sergio Pérez, hein, quand même, hein, qui va chercher un petit point, bon, petit point, voilà. Après une qualif encore ratée où il reste taqué en Q1, ouais. Et là quand même dans les déclats il y a quand même des trucs qui sortent là où ils disent on va faire une petite réunion interne là après Abu Dhabi, quand même on va voir ce qui se passe. Mais
il va arriver avec un nouveau sponsor, ils vont dire bon ok tu restes.
et tu sais Louis, t'as raison, le calcul est bon. Combien il apporte avec ses annonceurs? 20-30 millions, pas plus, c'est déjà énorme. Ouais. Mais combien il leur coûte au championnat?
Bah, c'est ça.
Combien il leur coûte? Parce que c'est vrai. Tu fais le nombre de points, bah, Verstappen 403, on l'a dit, hein, le pauvre Pérez 152, tu te rends compte?
Non, c'est pas assez.
Ah non, mais c'est grotesque. S'ils perdent le titre constructeur, c'est évidemment à cause de lui, pas grâce, à cause de lui. Donc il y a un gouffre. Alors que du côté des autres équipes, bah, t'as Norris 340, Piastri 268, t'as Leclerc 319, Sainz 259. Même chez Mercedes, alors ils tiennent les deux, 217 Russell, 208 Hamilton. Bon, la tâche, c'est Sergio, hein, je suis désolé. Hein.
Vrai qu'il fait un peu tâche cette saison. L'ami Sergio. Bon les gars, merci beaucoup pour ce débrief du Grand Prix de Las Vegas, la 22e manche de la saison, avec une masterclass de Verstappen, champion du monde pour la 4e fois d'affilée. Et puis nous on vous dit très vite, très rapidement, puisque dès jeudi, warm-up du Qatar. Il y aura plein de choses à dire encore, hein. Vous inquiétez pas, il y a plein d'histoires autour de la Formule 1. On a une course sprint en plus ce week-end là, la dernière sprint race de la saison, donc il y aura pas mal de choses à dire. Il y aura plein de réactions suite à ce titre à Las Vegas. On en saura peut-être plus sur les ratés d'Alpine, sur ce qui s'est passé entre Sainz et Leclerc. Donc on vous dit à jeudi pour écouter le warm-up. Merci à tous et bye bye, ciao.
Salut Nico, salut les gars.
Le paddock RMC.